France Culture.
Amis, voyez-vous, si tout est dans tout, et réciproquement, et si on part du principe, bien évidemment, qu'on est fait de tout petits bouts, et que ces petits bouts mis bout à bout font un grand tout éternellement, pourquoi du coup avoir l'angoisse quand on est au bout d'en perdre un bout, tout simplement? Pensez qu'après tout, puisque tout est partout, un petit bout de nous qui fait partie du tout fait qu'à travers nous, l'autre reste debout. Un petit bout du tout rencontre un autre bout. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Si tous ces petits bouts sont mis bout à bout, on revient d'un seul coup au tout. Si tout ce qui est en nous est en vous, alors donner un petit bout, ça vaut le coup. Ça donne du sens au tout et réciproquement.
Au fou, au fou, au fou, au fou. Tout ce qui est en nous n'est pas à vous.
Diafoirus d'opérette, technocrate de mes deux funambules du scalpel. Touche pas à mon tout bas les pattes, nom de Dieu. Mais c'est à vous ces petits bouts. Ces petits bouts qu'on a en nous, je vous interdis d'en prendre un bout. Jusqu'à la fin, je vais être un tout. Car ces petits bouts, mis bout à bout, c'est à moi seul, un point c'est tout. Je suis un tout, pas un fourre-tout.
Don d'organe par Pascal Auberçon dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir rassemblé ces morceaux de corps, on va remettre ensemble des morceaux de figurines du Néolithique.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Imaginez la plaine de Thessalie en Grèce il y a 7 millénaires, un paysage parsemé de collines artificielles où s'invente la vie sédentaire et la néolithisation de l'Europe. Au cœur des foyers, des milliers de figurines anthropomorphes voient le jour, défiant le temps par leur importante diversité de formes et de matériaux. Longtemps réduites à des idoles religieuses ou des symboles de fertilité, ces silhouettes de terre fabriquées durant plus de 3 millénaires nous révèlent aujourd'hui une toute autre histoire, celle des mains, des gestes et de l'intimité technique des premières communautés d'agriculteurs. Comment, de la main à l'esprit, peut-on reproduire ces figurines afin de mieux en comprendre l'histoire et le sens? Pour explorer ce dialogue muet entre la matière et le social, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Argyris Fasoulas. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur Deschamps. Vous avez décrit très bien la Thessalie et la période, pendant les périodes néolithiques, c'était très bien.
Vous allez nous aider à mieux la décrire. Vous êtes chercheur associé à l'équipe de proto-histoire EGN du laboratoire archéologie et sciences de l'Antiquité et vous êtes professeur contractuel à l'université Ioannina. Vous êtes l'auteur du livre issu de votre travail de thèse intitulé « La fabrication des figurines néolithiques de Thessalie » paru aux éditions de la Sorbonne. Merci beaucoup d'être avec nous à distance aujourd'hui depuis la Grèce. Dans votre ouvrage consacré à la fabrication de ces figurines thessaliennes au néolithique, vous nous emmenez par-delà le rituel à la découverte d'une protection domestique vivante où enfants et adultes apprivoisaient leur monde par le modelage. Quel rôle jouaient ces objets d'affection dans l'apprentissage social et comment expliquer ce paradoxe d'une plastique passant du naturalisme à l'abstraction au fil des siècles? Voilà quelques-unes des questions qui ont guidé votre enquête autour de ces figurines qui conservent une mémoire particulière des sociétés néolithiques de Thessalie. Et pour commencer notre discussion, Argyris Fasoulas, j'aimerais que vous nous expliquiez justement un peu où on se trouve quand on parle de Thessalie. Faites-nous un petit point géographie.
Oui, donc la Thessalie, c'est une région en Grèce, de la péninsule grecque, balkanique, au sud de Balkan. Il s'agit d'une région au nord, au centre nord de la Grèce. Et donc, c'est une plaine, la plus grande plaine de la Grèce d'ailleurs, entourée par des montagnes sur les trois côtés, c'est la mer Égée vers l'est. Et ce qui est le plus caractéristique, on peut dire, c'est qu'il constitue une unité, on peut dire, géographique aussi bien que culturelle pendant les périodes historiques et plus récentes, bien évidemment, mais aussi pendant le néolithique.
C'est une région qui est cruciale, Argyris Fasoulas, dans la néolithisation du territoire grec et même de l'Europe de l'Ouest.
Oui, exactement. C'est une région cruciale. Après, d'après notre connaissance d'aujourd'hui et de maintenant, parce que c'est vrai que la Thessalie, c'est une des régions la plus fouillée on peut dire aujourd'hui. Donc, une région qui présente une grande concentration de figurines aussi, une grande production de plastique, impressionnant par rapport à d'autres régions du Néolithique grec. Mais aussi, comme je vous ai dit, il s'agit d'une région assez bien fouillée, une région emblématique, on va dire, tant pour le néolithique grec et balkanique, mais aussi pour la néolithisation de l'Europe.
Est-ce que vous pourriez, Argyris Fasoulas, nous décrire le paysage de Thessalie ? J'évoquais ces collines artificielles. Décrivez-nous un petit peu l'organisation spatiale de cette région-là.
Donc, c'est une l'organisation spatiale, on ne sait pas très bien. On trouve des sites néolithiques. Il y a plusieurs sites dans l'ensemble de la plaine, mais la géographie a beaucoup changé à cause des travaux plus récents, des changements dus surtout de travaux agricoles et tout ça. Donc la géographie d'aujourd'hui n'a rien à voir, plus ou moins rien à voir avec ce que les gens néolithiques voyaient à l'époque. Il s'agissait d'un paysage beaucoup plus humide, avec beaucoup plus de forêts, etc. Et après, les villages, on les trouve, les villages néolithiques, je veux dire, on les trouve un peu partout, on les trouve dans la plaine, dans les collines, au pied des montagnes, tout autour, aussi bien près des lacs naturels. Donc, on les trouve un peu partout. Après, il n'y a pas des régions qui sont plus habitées que d'autres, mais c'est notre connaissance d'aujourd'hui, de maintenant. Vrai que les dernières décennies, on n'a pas beaucoup fouillé en Thessalie.
Justement, on peut peut-être parler des fouilles précédentes, Argyris Fasoulas, de cette richesse des fouilles.
C'est à cause des problèmes financiers, surtout. Hein, oui. Parce qu'en Grèce, comme vous le savez, on avait des grandes aventures depuis les années...
Depuis la crise de subprime. Voilà, ouais.
Donc, tout ce qui concerne les fouilles systématiques, les fouilles universitaires sont presque arrêtées.
Mais du coup, il y a quand même, vous le disiez, Argyris Fasoulas, des campagnes de fouilles précédentes particulièrement riches qui ont été réalisé en Thessalie, et notamment pour cette période néolithique. On va parler évidemment en long, en large, en travers de ces figurines néolithiques, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut décrire ? Quelles sont les principales découvertes concernant le néolithique qui ont été faites en Thessalie ? Quels sont les principaux sites qu'on peut mentionner pour familiariser un peu les personnes qui nous écoutent avec cette région au moment du néolithique ?
Oui, donc... les sites les plus connus, je pense qu'ils sont Dimini et Sesklos, sont deux sites emblématiques. Ils ont donné même leur nom à des cultures archéologiques respectives. Donc, deux sites assez connus qui ont donné beaucoup d'éléments pour comprendre la vie quotidienne de peuples néolithiques en Grèce. Donc après, ce sont des villages néolithiques comme un peu partout. Je veux dire, on a des bâtiments carrés, on a des vestiges archéologiques, surtout des animaux domestiques, mais aussi un peu de chasse. On trouve des utilitiques, la céramique bien évidemment, et surtout la céramique de Dimini et de Sesklos. C'est une céramique assez riche, assez impressionnante, même au niveau du décor, aussi au niveau des styles de schéma des pots, des vases céramiques. Voilà, si les Dimini, c'est aussi connu par ces murailles concentriques. Donc, on trouve quelques murs concentriques qui entourent le village. Et donc, la fonction, c'est encore une grande question, s'il s'agissait vraiment des murs de défense ou c'était plutôt pour l'organisation des espaces intérieurs. pour mieux organiser et faciliter la construction des maisons, etc.
Voilà. Donc là, on a une idée, Argiris Fasoulas, on a une idée, excusez-moi de vous interrompre, c'est malheureusement quand on est à distance, je suis obligé de le faire, mais on a une idée de l'importance de la production matérielle au néolithique. J'aimerais qu'on en vienne à l'objet de notre discussion, ces figurines de Thessalie. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette production, comme on la caractérise en langage scientifique, d'idoloplastique? Pourquoi avoir voulu travailler sur ces figurines du néolithique en Thessalie?
Écoutez, parce que déjà, pour moi, c'était pas juste les figurines. La figurine, c'est une question assez souvent traitée par les spécialistes. C'est déjà figurine, c'est un objet, un trouvaille qui tire l'attention des gens. Donc, plusieurs chercheurs ont présenté, ont étudié, ont essayé à interpréter les figurines. Ce qui manquait, c'était l'approche technique. Donc, c'est pour ça, déjà pour moi, mon intérêt sur la fabrication des figurines, c'était ça venait déjà de ma réalisation, c'était qu'il s'agissait d'une question très rarement posée. On s'est jamais demandé comment les figurines ont été fabriquées. Mmh. Et ça est dû surtout à un regard méthodologique et pour moi épistémologique aussi, qui voulait que les figurines appartiennent à ce qu'on caractérise ou ce qu'on caractérisait jusqu'à récemment, excusez-moi, comme une sphère symbolique et qui se différencie de tout ce qui est pratique, technique, matériel, etc. Donc, les figurines, c'est du religieux, c'est du symbolique, donc elles étaient plus ou moins privées de toute dimension matériel et technique.
Et c'est ce qui fait toute la richesse de votre travail, c'est que vous associez archéologie des croyances et archéologie des techniques et vous associez finalement l'objet à sa fabrication, ce que l'archéologie ne fait pas toujours.
Voilà, c'est ça. Et pour moi aussi, la technique, c'est quelque chose de plus large. Hein. C'est la technologie, pour moi, c'est l'anthropologie. Les phénomènes techniques sont des phénomènes sociaux et culturels. Donc, pour moi, comprendre déjà, détecter et comprendre les choix techniques qui ont été faits par les fabricants au fur et à mesure de leur travail, sont des choix aussi déterminés non pas seulement par l'univers technique, les contraintes matérielles et tout ça, mais aussi tout ce qui est organisation sociale, les systèmes symboliques, esthétiques, les mythologies, tout ça. Mmh. Voilà.
On le disait, Argiris Fasoulas, la Thessalie est renommée donc pour l'abondance et la variété des figurines, mais tout de même, il nous faut faire un premier constat, c'est que 93% de ces figurines ont été retrouvées brisées. Est-ce qu'on a une explication à ça?
Une explication, pas vraiment. Moi, j'ai pas une explication. il y a plusieurs chercheurs qui ont trouvé ça bizarre. Ils ont essayé à interpréter ça comme un indice d'une certaine volontarité derrière la fabrication,
la destruction,
fragmentarité. Mmh. Et ils pensaient vraiment que à la fin de la vie de ces objets, elles ont été intentionnellement brisées. Et c'est possible. Après, vous savez que la plupart des pots céramiques, des vases céramiques sont aussi brisés. Hein. C'est très rare de trouver un objet céramique en entier. Personnellement, je ne suis pas très persuadé, mais je ne peux pas l'exclure comme explication. Mais il faut chercher un peu plus aussi vers tout ce qui est facteur taphonomique et tout ça. Parce qu'après tout, les figurines ont été cassées, dans la plupart des cas, sur les points les plus fragiles. Mmh. Le cou, la main, les pieds, etc. Donc,
Quel problème ça pose d'un point de vue?
On a toujours affaire à des fragments. On n'a jamais des figurines. On a très très peu de figurines entières.
Sans forcément trouver une explication à cette fragmentation, quel problème ça vous pose à vous en tant qu'archéologue, en tant que scientifique, ce caractère fragmentaire majoritairement pour ces figurines de ces figurines de Thessalie?
Bon, en tant que chercheur, c'est un cauchemar parce que déjà c'est très difficile à comprendre les types morphologiques. Donc, on trouve une tête, mais on sait pas le corps. On trouve un corps, mais on sait pas s'il y avait un tête déjà. S'il y avait un tête, parce que parfois on trouve des corps sans tête, on trouve des figurines comme acrolites ou été fabriqué un autre type de matériel. Et une tête qui a été fichue sur le corps. Donc, il y a plusieurs problèmes, surtout pour la correcte morphologie, mais aussi, on a toujours une image partielle de la pièce. Mmh. Et on essaye à amener des lacunes avec les connaissance qu'on a, mais c'est dangereux aussi, c'est pas toujours la meilleure solution.
Alors on vous a un petit peu perdu, Argyris Fasoulas, c'est l'inconvénient d'avoir une connexion avec la Grèce, alors on va essayer de voir si vous êtes toujours là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on parlait de ce côté fragmentaire qui est caractéristique pour ces figurines du néolithique en Thessalie. Parfois, on a de la chance et parfois, certaines de ces figurines sont complètes. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en décrire certaines, nous expliquer quelle forme elles ont, quelles dimensions elles ont, ce qu'elles représentent, tout simplement?
Oui. Donc, il s'agit de figurines très petites. Elles sont des représentations très petites de quelques centimètres. Elles sont des objets mobiles, donc on peut facilement le cacher dans les vêtements, le bouger dans l'espace, etc. Donc, pour ce qui s'agit des formes, donc les formes sont toujours les mêmes. Hein. Déjà, il fallait mentionner au début qu'elles apparaissent toutes au même moment, donc au début du néolithique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on pense que cette activité vient avec le reste des éléments qui constituent le monde de vie néolithique de l'Orient. Donc on ne sait pas tout exactement, il y a plusieurs scénarios, mais en gros ça vient d'Orient. Donc la fabrication des figurines à ses origines à l'Orient, de la Croissance fertile, et comme elles paraissent dans le monde égéen et en Thessalie, on voit déjà une activité en plein essor. Donc toutes les formes sont là. Et donc, c'est surtout des figurines anthropomorphes, dont la 90% par des figurines anthropomorphes, mais on a aussi beaucoup plus rarement des figurines zoomorphes, donc la représentation des animaux. Et après, il y a des subdivisions, il y a plusieurs types, plusieurs façons de représenter les corps. Des figurines plus réalistes, si vous voulez, avec plus de détails, ou des pièces plus schématiques. Mais en gros, c'est ça. On a quelques changements, on a quelques fluctuations, si vous voulez, de ces formes. La plus importante, peut-être, c'est que vers la fin du néolithique, après le néolithique récent, on voit une augmentation des figurines schématiques au détriment des figurines plus réalistes. Donc, mais sinon, c'est toujours la même forme.
Mmh. On va poser bien sûr plus tard la question justement de comment expliquer cette évolution vers plus de schématisme, ce qui n'est pas forcément intuitif, mais j'aimerais comprendre avec vous en fait sur quel corpus vous vous êtes appuyé et voilà, quelles questions vous avez posées à ces 337 figurines provenant de 9 sites que vous avez étudiés.
Donc la question, comme je vous ai dit, c'est déjà décrire, reconnaître et décrire les techniques. Comprendre comment ces figurines-là ont été fabriquées. Et après, voir si à partir de leur, à partir de cette fabrication de différentes chaînes opératoires, c'est-à-dire les étapes, si vous voulez, de leur fabrication, et si je peux, donner quelques réponses ou au moins aborder quelques questions par rapport à l'organisation de la production et aussi le rôle de cette production, de cette fabrication dans, dans la vie sociale de ce peuple néolithique. Voilà, en gros, ça, c'était le cadre.
Comment vous avez procédé étape par étape, du coup, pour répondre à cette question de la fabrication et du mode de fabrication de ces figurines de Thessalie?
Comment? J'ai pas entendu la question.
Quelles étaient les principales étapes dans votre travail de recherche pour justement comprendre la fabrication et l'intimité de la fabrication de ces figurines du néolithique en Thessalie?
Oui, donc, moi, j'ai commencé, bien évidemment, par la macroscopique, c'est-à-dire l'analyse à l'œil nu. J'essayais de voir déjà quelques indices, quelques traces caractéristiques des différentes techniques utilisées. Et donc, après, j'ai recours à la radiographie. Hein, qui est, c'est une méthode non destructive, mais assez important pour moi, mais assez cher, et ça prend aussi beaucoup de temps, donc je pouvais pas scanner ou radiographier toutes les figurines, donc j'ai essayé quelques-unes pour le faire, et ça nous permet de visualiser l'intérieur. Des figurines sont les abîmées, et donc là on peut repérer les fissures, les variations de la densité, l'orientation de la matière, etc. Donc c'est une méthode très utile pour compléter et confirmer aussi les observations macroscopiques. Et enfin, j'ai aussi adopté une démarche expérimentale. J'ai essayé de reproduire certaines figurines ou des parties des figurines. Voilà, en argile, pour mieux comprendre les techniques utilisées par les fabricants. Et donc, cette expérimentation permet d'observer justement directement les traces laissées par les gestes de la fabrication sur la matière et les comparer avec les traces observées sur les pièces archéologiques. Voilà. Donc, j'ai combiné ces trois méthodes pour pouvoir reconnaître les techniques de façonnage, surtout, et reconstituer la production hydroplastique.
Une question toute bête, Argyris Fasoulas, mais est-ce que c'est si simple que ça de fabriquer une petite figurine de 6-7 cm de taille? On pourrait se dire, bon, c'est un jeu d'enfant, mais de quoi vous vous êtes rendu compte, finalement, en repratiquant ce geste-là?
Oui, non, c'est très riche, c'est une vraie production. Il y a plusieurs techniques différentes, il y a des sous-techniques, il y a des variations. C'est vraiment plus compliqué que ce que j'imaginais au début. J'ai pu reconnaître trois techniques différentes avec plusieurs sous-techniques, etc. Et une grande variation. Donc, les gens qui fabriquaient ces figurines, ils avaient
On a perdu Argyris Fasoulas, son
valeur. Derrière eux, oui.
Non, on vous a perdu pendant une vous seconde, mais on vous a retrouvé, c'est bon.
D'accord. Donc je vais vous parler des techniques. Donc là, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment une vraie production technique, une vraie tradition facilement comparable avec les techniques utilisées dans la céramique, dans la poterie, par exemple. Et la taille, ça joue aucun rôle dans ce cas. On trouve des figurines très très petites avec une technique de fabrication très compliquée. On se demande pourquoi d'ailleurs. Mais non, c'est pas si facile. C'était pas si comment dire. si aléatoire, si vous voulez. Donc, les gens, les fabricants suivaient des étapes, des processus très précises. Et est-ce que c'est intéressant que vous parliez des jeux d'enfants, justement, parce que on a des indices. C'est pas mon propre travail, mais avec des archéologues que je collabore, on a quelques indices au moins que les enfants peut-être ont participé à la fabrication. Mais c'est bon, on a l'imaginaire, on a l'image que les enfants ils font un peu n'importe quoi, ils jouent machin, mais non, je pense que ils sont aptes à mener des projets techniques assez sophistiqués. Et dans ce cas, dans le cas des figurines, je pense qu'ils ont participé dans certains stades, dans certaines étapes au moins de la fabrication.
Il y a une façon d'apprentissage, mais par le jeu, là, dans ce cadre-là. On pourrait suggérer ça.
Voilà, c'est ça.
Avez pu mettre en évidence des intentions pour la fabrication de ces figurines en les fabriquant vous-même? Est-ce que vous avez pu émettre des hypothèses, non seulement sur qui les fabriquait, là vous évoquiez les enfants, mais est-ce qu'on sait s'il y avait par exemple des spécialistes, des ateliers, des endroits où on fabriquait en priorité ces figurines, ou bien si ces objets, ces petits objets, étaient fabriqués par tous les foyers, par tout le monde?
Ça c'est une vraie question. Donc pour moi, déjà, on n'est clairement pas face à des artisans spécialisés au sens strict, hein, avec des ateliers ou une production standardisée, etc. On voit une variabilité dans les formes et dans les techniques qui est trop importante. Les figurines sont très flexibles. Donc, ça ne correspond pas à une production très centralisée, très contrôlée. Donc, je pense plutôt à une production, bon, à l'échelle du village, bien évidemment, assez décentralisée, où plusieurs personnes participent. Donc là, pas forcément tout le monde, mais probablement un sous-groupe d'individus qui sont acquis, qui ont acquis, excusez-moi, un certain savoir-faire. Mmh. Donc, comme partout, il y a toujours des gens plus doués, moins doués, des apprentis, etc. Mais je pense plutôt à une forme de spécialisation technique, si vous voulez, mais plus diffusée, intégrée dans la vie quotidienne, comme par exemple, je sais pas, chez nous, comme c'est comme on cuisine dans la maison. Il y a certaines personnes qui cuisinent mieux, il y a d'autres qui cuisinent mal, ils s'intéressent pas. Mais c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure de notre vie.
Ah, Viris Fassoulas, c'est une question aussi que je me posais en préparant cette émission. Ah pardon, je vous en prie.
Non. Juste pour vous dire, pour les lieux de production, on n'a pas vraiment de données là-dessus. Hein. On n'a pas d'indices. On trouve très peu de figurines non finies. Bon, déjà on les trouve en pièces, en fragments, mais malheureusement non, on n'a pas d'indices d'atelier ou de trucs comme ça.
On évoquait tout à l'heure Argyris Fassoulas. Alors non seulement le fait que ces figurines durent dans le temps, pendant 3 millénaires, elles sont fabriquées du milieu du 7e millénaire jusqu'au milieu du 3e millénaire en Grèce, et on évoquait l'évolution stylistique vers plus de schématisme. Comment expliquer d'une certaine façon que avec le temps ces figurines-là soient moins détaillées, soient plus simples d'une certaine façon dans leur facture?
Oui. Pour être sincère, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas parce que déjà, c'est une question qui touche, qui touche le domaine de l'esthétique, des choix techniques, des choix esthétiques des gens. Je ne peux pas vraiment comprendre pourquoi on a ce changement. C'est important de souligner déjà que les figurines réalistes ne disparaissent pas. Donc, c'est juste une question de pourcentage, si vous voulez. Donc, pourquoi les gens, vers la fin du néolithique, choisissaient plus de figurines schématiques? Je peux vous dire que parce que la tradition change, les traditions ont changé, peut-être si on accepte que chaque forme correspond à une fonction ou il y a une signification différente, peut-être les figurines plus schématiques ou les activités qui ont été liées avec ces figurines plus schématiques, peut-être ils étaient plus valorisés vers la fin du néolithique. Mais voilà, après, on peut faire des scénarios, des interprétations comme ça, mais sont pour moi des interprétations un peu gratuites. On n'a pas de données pour donner ce type de réponses. Mais ce qu'on voit, c'est un net changement d'habitude technique, d'habitude esthétique, voilà, morphologique, etc.
Donc, pas mal de mystères encore autour de ces figurines de Thessalie. Je peux citer un vers du poète Nikos Panagiotopoulos que vous citez en exergue de votre livre, Chose pétrie avec de l'eau. Dis-moi, as-tu tendu la main sur les mystères? Vous, Argyris Fasoulas, vous avez tendu la main sur ces mystères et vous avez en partie levé le voile sur les mystères de ces figurines de Thessalie. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés à distance depuis la Grèce aujourd'hui pour nous parler de ces petits objets pleins de secrets. Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Élise Leu aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.